Je relis le début de la strophe. Et nous continuons. Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse, dans le centre le plus profond de mon âme. Puisque vous ne me causez plus de chagrin, achevez votre œuvre, si vous le voulez bien. Déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Donc, dans son centre le plus profond, nous avions commencé à boire. Or, comme les choses rares et dont on a peu d'expérience excitent plus notre admiration et semblent moins croyables, comme celle de l'âme en cet état dont nous parlons, il s'en trouvera évidemment quelques-uns qui, faute de science et d'expérience, ne les croiront pas, ou les regarderont comme des exagérations, et ou s'imagineront qu'il ne s'agit pas d'une perfection aussi haute. Je leur réponds à tous que le Père des Lumières, dont le bras n'est pas raccourci, se répand à profusion, sans exception de personne, partout où il trouve la place libre, comme le rayon de soleil. Il se montre aux enfants des hommes par toutes les voies possibles de bon cœur, sans hésitation. Tout homme de trouver ses délices au milieu d'eux ici-bas. Nous ne devons donc pas regarder comme incroyable qu'une âme déjà éprouvée et purifiée par le feu des tribulations, des travaux et des tentations de diverses sortes, mais trouvée fidèle dans son amour, ne voit s'accomplir ici-bas en elle ce que le Fils de Dieu a promis quand il a dit « Si quelqu'un m'aime, les trois personnes de la très sainte Trinité viendront en lui et établiront leur demeure. » Cela veut dire que son entendement sera divinement éclairé par la sagesse du Fils, que sa volonté sera remplie de délices par le Saint-Esprit, et que le Père l'absorbera d'une manière puissante et forte dans l'abîme de sa tendresse. Oui, cette réflexion de Saint Jean de la Croix, c'est très, très beau de voir le souci qu'il a de montrer la vérité de ce qu'il dit et de la rattacher. Oui, bien le théologien, de la rattacher tout de suite à une affirmation de Jésus. De Jésus a une signification. Tout ce qu'il a dit précédemment est contenu dans cette affirmation. Je crois que c'est toujours ce que nous devons faire, vous voyez, par rapport à toute expérience particulière et personnelle. Ne jamais s'arrêter à ce qui nous est communiqué quand il s'agit d'une révélation privée. Vous voyez, c'est une révélation privée, là. Il nous donne le contenu de son expérience mystique. Lui-même, comme il est théologien, parce que tout le monde ne fait pas ça, lui-même, comme il est théologien, il le rattache immédiatement à une parole divine. Et on pourrait alors, en théologie mystique, prendre cette parole divine et prendre les éléments qu'il donne pour montrer que tout est contenu dans cette affirmation. Je crois que ce serait l'œuvre du théologien mystique quand il s'agirait de faire le traité de l'horizon et montrer qu'est-ce que c'est que le traité de l'horizon, que représente la transformation de l'âme dans l'âme du Christ, que représentent ces noces dont parle saint Thomas dans ce qu'il dit, lorsqu'il parle de Cana d'une façon mystique, la transformation du cœur dans le cœur du Christ. Eh bien, je crois que c'est bien ce qui est dit ici, et du reste on le comprend bien. Si quelqu'un m'aime, les trois personnes Au niveau de la procession, ça va. Au niveau de la procession. le degré d'intensité d'amour au-delà de la communication et de la transformation. Ce dernier amour est comme un charbon ardent. L'autre, ainsi que nous l'avons dit, est comme un charbon tellement embrasé. Donc la comparaison entre un charbon ardent, c'est déjà bien. Mais l'autre, c'est un charbon tellement transformé qu'il jaillit de vives flammes. L'autre, ainsi que nous l'avons dit, est comme un charbon tellement embrasé que non seulement il est tout en feu, mais qu'il lance de vives flammes. Et ainsi, ces deux sortes d'union, l'union simple et l'union tout embrasée d'amour, sont d'une certaine manière semblables au feu divin qui, dit Isaïe, brûlait dans Sion, et à la fournaise divine qui brûlait dans Jérusalem. Le premier signifiait l'Église militante, où le feu de la charité n'éteint pas son degré suprême, et le second signifiait la vision de paix, c'est-à-dire l'Église triomphante, où ce feu est comme une fournaise tout embrasée d'un amour parfait. C'est les degrés d'intensité dans la charité. Et il veut montrer ici comme le degré suprême de la charité dans son exercice. Vous voyez, plus la charité est intense, plus elle s'empare de notre volonté, et plus elle étudie à sa source. Et d'une certaine manière, plus par le fait même, l'unité est forte avec l'Esprit Saint. Et plus tout ce que nous faisons, c'est l'Esprit Saint qu'il fait en nous. Et plus par le fait même, notre charité devient source jaillissante d'un feu d'amour pour l'éternité. La double manière dans laquelle on doit comprendre la croissance des vertus théologales. Un enracinement plus profond dans l'intelligence et la volonté. Et une proximité plus grande à l'égard de la très sainte Trinité. L'objet des vertus théologales et saisi de l'intérieur d'une façon plus intime. Et les vertus théologales s'emparent davantage de notre intelligence et notre volonté. Et il y a toujours les deux aspects qu'on peut développer. Parce que c'est justement le propre de la croissance d'un habitus. Tout habitus réalise ça. Et quand il s'agit des vertus théologales, il s'agit d'un habitus divin qui n'a pas de limite. Et donc il peut s'emparer toujours plus et toujours davantage de nos facultés d'intelligence et de volonté. Si notre intelligence et notre volonté ont une capacité infinie de croître, les habitus de foi, d'espérance et d'amour peuvent s'enraciner toujours plus profondément en nous et s'emparer de plus en plus de tout ce que nous sommes et permettre à l'œuvre même de la très sainte Trinité de la réaliser d'une façon plus intime en nous. C'est toujours cette intériorité plus grande. Je crois que c'est ça qui caractérise cette croissance. Et tout est saisi de plus en plus pour être conjoint à sa source, à la source même qui est la très sainte Trinité. Sans doute, l'âme n'est pas, nous le répétons, parvenue à cette perfection qu'il y a au ciel, mais relativement communique d'une manière souveraine tous les biens que l'amour divin apporte avec lui. Voilà pourquoi elle s'écrie « Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse !» Puisque plus la charité s'enracine en nous, plus d'une certaine manière, notre âme est comme blessée par cette emprise plus profonde de l'amour divin. C'est comme si elle disait, ô amour embrasé, comme vous me glorifiez avec délicatesse par vos élans pleins d'amour et pénétrez toute la capacité et la force de mon âme. Vous me donnez une intelligence divine d'après toute l'acuité et la capacité de mon entendement. Vous me donnez un amour de ma volonté. Vous abreuvez la substance de mon âme, du froment de vos délices, du torrent de vos délices, par votre divin contact et l'union à votre substance, qui sont en rapport à toute la pureté de ma substance, comme à toute l'étendue et à toute la capacité de ma mémoire. La mémoire, mais ici, vous avez bien vu les triples mouvements. Et là, on retrouve la mémoire. Pour ce petit point d'interrogation, vous voyez. La troisième faculté spirituelle, la mémoire. Ça, on sait très bien que ça fait partie de toute une certaine vision des mystiques et du néoplatonisme. Intelligence, volonté, mémoire. Spirituelle, c'est évident. Et Satama ne partage pas cette vision-là. Ça n'empêche pas que Saint Jean de la Croix puisse être thomiste. Hein, quand on est à ce niveau-là, vous comprenez. Hein. Mais c'est quand même très important de bien comprendre ici cet appel donc à ce que représente la mémoire. Et vous voyez bien, c'est dit avec netteté, vous abreuvez la substance de mon âme, toujours le lien avec le Père, qui est le lien de la substance, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vous abreuvez la substance de mon âme du torrent de vos délices. Par votre divin contact et l'union à votre substance, qui sont en rapport à toute la pureté de ma substance, comme à toute l'étendue et à toute la capacité de ma mémoire. Mémoire et substance, là, sont mis très proches. Ça caractérise une faculté particulière ou tout simplement, est-ce que ça montre que l'intelligence et la volonté ont une activité immanente du fait même qu'ils sont une activité immanente, ils sont comme la mémoire. Dans le néoplatonisme, le langage est toujours par les propriétés et non pas par le point de vue de l'analyse, du diesti, de ce que c'est, du fait même que intelligence et volonté ont une immanence toujours plus profonde et plus grande. Cette durée dans l'immanence peut être considérée analogue à la mémoire. Et alors à ce moment-là, ça fait comprendre, point de vue profond, puisque je crois que Saint Thomas a raison dans son analyse, ça fait comprendre le lien exact de l'espérance, le lien entre volonté et intelligence. la dernière session sur la foi. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Oui, nous disons que la foi est spéculative et pratique. Bon, mais la foi est une. Et la foi comme telle est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. La foi est reçue dans l'intelligence.
De la foi.
spéculative et pratique. La distinction intelligence spéculative et pratique, c'est une distinction propre à mon intelligence créée, participée. Ce n'est pas propre à l'intelligence. Une fois atteint l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, donc dans son lien avec l'âme substantielle. Et c'est très difficile à dire ça parce que nous avons un langage d'extension et il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de quantité. Et on essaie de comprendre, parce qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer de comprendre ce que représente cet enracinement de la foi dans mon intelligence. Nous avons nous toujours ce petit schéma, vous comprenez ? Là, comme ça, mon intelligence, elle reçoit la foi. Béatement, mon intelligence s'ouvre. Alors, j'ai la parole de Dieu. Vous recevez la parole de Dieu. C'est pas comme ça du tout, puisque c'est de l'intérieur. Et c'est la foi qui s'ouvre de l'intérieur. C'est mon intelligence qui s'ouvre de l'intérieur. C'est mon intelligence qui t'ennoblit de l'intérieur. Donc, renverser. Vous allez me dire, c'est encore un schéma. Oui. Et c'est un schéma plus proche. Intérieur et extérieur sont des schémas quantitatifs. C'est la quantité qui fait ça. Dès que je suis en face de l'esprit, il n'y a plus. Mais c'est pour renverser le schéma que je fais ça. Et quand on renverse le schéma aussi, ah oui. Donc, c'est bien de l'intérieur. Et c'est ce que je veux montrer, que c'est quelque chose qui atteint l'intelligence à sa racine. Donc dans son lien avec l'âme substantielle, avant la distinction spéculative et pratique. Et ça fait comprendre, si vous voulez, ce que représente combien la foi, comme elle est enracinée en nous, bien plus que tous les autres épineuses qui s'acquièrent de l'extérieur. La foi est bien plus enracinée en nous comme un habitus de mathématiques ou de métaphysique. C'est quelque chose de beaucoup plus vital. Et c'est pour ça qu'elle ne peut disparaître que si je pose un acte positif contre la foi. Elle ne disparaît pas même quand je mets entre parenthèses ma foi. Ça, je peux m'en occuper. Mais très bien, elle reste là. Elle ne disparaît pas. Tellement c'est enraciné en nous. Et c'est enraciné divinement sous l'action directe de l'Esprit Saint. Alors, puisque volonté et intelligence, la même chose pour la charité, encore plus. La charité est encore plus proche de la grâce que la foi, si j'ose dire, plus proche. Et donc la charité est enracinée, elle aussi. capacité de croître. Donc, elle exprime cet élan particulier d'une volonté qui s'appuie sur l'amour.
Vécu qui va jouer un tel rôle dans toute la philosophie.
Plus en effet, l'âme est purifiée dans sa substance.